Nous allons nous lever, commencer en priant la Vierge Marie, tout particulièrement l'Immaculée, celle qui n'a pas du tout laissé prise au malin, elle n'est pas entrée dans sa tentation, elle nous a donné celui qui triomphe, qui a triomphé de Satan, du malin, du mal, du péché. Nous chantons notre Maman du Ciel. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame de Nazareth, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre présence ce soir à cette conférence du temps de l'Avent sur un thème ô combien important. Vous en avez lu l'intitulé, le Verbe se fait chair et Satan se déchaîne. Le Verbe se fait chair, c'est une bonne nouvelle. Dieu ne nous veut que du bien. Et Satan n'aime pas les bonnes nouvelles et il ne nous veut que du mal. C'est donc de lui, entre autres, que nous allons parler. La personne bien appropriée, c'est le Père Jean-Pascal Duloisy, qui est l'exorciste de notre diocèse de Paris, que j'ai déjà eu à faire venir ici. Alors, il va nous parler de quelqu'un qui me plaît à taquiner sur ce sujet, est déjà à l'œuvre parce qu'il ne doit pas être content qu'on se réunisse dans cette église. Il se trouve qu'on a une panne de chauffage. Voilà, et donc, il devait viser à vous décourager de venir, mais vous êtes là quand même. Donc, on va bien écouter attentivement ce que le Père Jean-Pascal Duloisy va nous partager bien simplement ce soir.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis impressionnée par votre présence nombreuse et je me souviens, oui, être venu parler ici à la belle jeunesse de la paroisse. Ce matin, nous avions encore réunion, le vicaire général, Mgr Denis Jachier, mon confrère exorciste, le père Georges Berson, et il y avait le curé d'Argenteuil qui vient d'être nommé exorciste pour le diocèse du 80. Pontoise, et il y avait le père du foyer de charité qui est maintenant fermé, son nom m'échappe, qui était avec nous, qui va être exorciste pour le diocèse de Meaux sur Provins. Nous travaillons tous de concert. Nous, la spécificité, c'est que nous sommes les exorcistes de la province de Paris, à savoir pour tous les diocèses d'Île-de-France et auprès du diocèse aux armées, c'est-à-dire Meaux, Nanterre, Créteil, Évry, Paris, Versailles, Pontoise, Saint-Denis. Voilà. La conférence s'appelle « Le Verbe s'est fait chair » et je voudrais un peu parler de cette question parce que nous n'avons pas pour vocation à faire un traité de démonologie. Mais nous avons pour vocation à nous inscrire dans la joie du mystère de la rédemption. Ne vous faites pas de soucis, dit le Seigneur. La question donc du Verbe qui s'est fait chair, à partir du moment où le Christ s'incarne, il y a ce que l'on appelle la disparition de l'ancienne création dans l'ordre du Père, et avec le Christ commence la nouvelle création dans laquelle vous faites partie désormais par la grâce des sacrements et le baptême, sacrement de la rédemption. Et quand je suis arrivé ici, quelle ne fut pas ma joie de voir ce beau baptistère, fontaine de la vie. Quel beau baptistère vous avez. Ce baptistère signifie la défaite du démon. Désormais, vous êtes rené de l'eau et de l'Esprit Saint. Ne l'oubliez jamais. Bien. Cette nouvelle création est à l'œuvre. Ça veut dire que le démon est vaincu. Mais je voudrais d'abord commencer par vous faire réfléchir sur possession ou infestation. Il y a des gens qui sont possédés et des gens qui sont infestés. Ce n'est pas pareil. Tout d'abord, l'action du démon est réelle. Pourtant, il y a des personnes qui disent que non et que le démon n'existe pas. Alors, ces personnes qui nient l'action du démon, il y a peut-être quelques explications à cela. C'est peut-être parce qu'elles ne sont pas engagées dans une vie spirituelle très active. C'est peut-être parce qu'elles ne prient pas. Parce que le démon, il n'est menaçant ou il ne se sent menacé que parce que le Christ s'approche de lui. Dans l'Écriture, quand le Christ s'approche, Jésus de Nazareth, que nous veux-tu ? Il n'est dérangé et dérangeable que par une vie spirituelle. Et il ne se manifestera pas autrement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie spirituelle ? C'est une vie qui s'efforce de rechercher la volonté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Voici les trois activités principales d'une personne qui a une vie spirituelle. Elle attend le retour du Christ à la fin des temps. Et ne l'oubliez pas, ce temps de Noël, vous ne devez pas simplement attendre Jésus à Noël. Mais quand vous avez lu l'évangile selon saint Marc, commencement de ce dimanche, commencement de l'évangile de Jésus, Messie. Christ veut dire Messie. Et quand on dit Messie, on parle donc de salut, donc de retour du Christ, de consommation des temps, de rassemblement dans la joie éternelle, donc le désir du ciel. Ça, je voulais vous le dire. La vie spirituelle, donc, c'est une vie qui va donc être en présence du Seigneur pour poser des actes concrets, libres, des actes de foi. Par exemple, dans la gestion de votre temps, comment est-ce que vous gérez votre temps ? Vous le voyez, aujourd'hui, notre temps, il est démultiplié par les possibilités que nous avons de vivre. On peut vivre tard le soir grâce à la lumière électrique. On peut se lever tôt le matin grâce à la lumière électrique. On est en contact avec le monde entier, une information constante. On peut agir, répondre, se revoir. Tout cela nous donne donc grande richesse de possibilités. Mais il faut choisir. On ne peut pas vivre 72 heures en 24 heures. Donc, si vous voulez être encore chrétien, il faut renoncer dans votre temps à des possibles qui ne sont pas profitables. Et le Seigneur dit, et c'est saint Ignace de Loyola qui le dit, ne travaillez pas exagérément. Que ce soit pour les cadres de la défense, les avocats dans leur grand cabinet, ou les médecins. Pourquoi ? Je dis même les médecins, pourquoi ? Des urgences, il y en aura toujours. Des pauvres, il y en aura toujours. Mais vous devez chanter avec la forme de votre bec et pas vivre au-dessus de vos moyens à tel point que votre vie spirituelle devient inexistante. Vous êtes des zombies d'activité, mais vous n'êtes plus des chrétiens. que nos baptisés disent « j'ai pas le temps d'aller à la messe ». Il faut donc renoncer à des choses très intéressantes. Pourquoi ? Le renoncer dont je vous parle, ce n'est pas un renoncer absurde et abstrait. Renoncer, ça veut dire « Seigneur, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux ». Vous dites votre limitation pour que Dieu vienne, lui à qui tout est possible, rendre le possible dans votre, l'impossible dans votre vie. Et vous arriverez à faire tout tenir dans votre journée. Il y a quatre qualités qui sont très importantes spirituellement. Et la première, ce n'est pas la charité comme vous le pensez immédiatement, dans le sens général du terme. La première grande qualité du combat spirituel, c'est la patience. Soyez patient. Soyez humble. Soyez obéissant et soyez charitable. Mais une charité qui n'est pas habitée de patience, d'humilité, d'obéissance, c'est de l'activisme. Même quand vous iriez distribuer des repas froids aux pauvres, votre âme n'est pas touchée par la présence du Seigneur, le Verbe s'est fait chair. Vous ne pouvez pas vivre avec les soucis du monde, vous inquiétez de quoi vous vivrez demain. La providence du Seigneur et le fait de vivre dans cette providence est le signe d'une vie spirituelle et non pas d'une vie humaine, affairée, généreuse et parfois possessive ou parfois murmurante, parce que ça ne se passe pas comme on le voudrait. Je prends l'exemple de la gestion du temps, qui est un problème très grave aujourd'hui. Le démon maintenant. Dans la vie spirituelle, comment est-ce qu'il agit ? Il agit par la tentation. Toujours par la tentation. Être tenté, vous le serez plus ou moins, mais vous pouvez l'être de différentes façons, et je vous expliquerai tout à l'heure comment fonctionnent les tentations. Je vous ai donc que certaines personnes peuvent être infestées, d'autres possédées. Le démon n'est pas un rigolo. Il ne va pas s'amuser à vous chipoter, vous chatouiller, faire de la magie, des bricolages comme ça. Il ne s'amusera pas à faire bouger les tables pour vous effrayer. Le démon est un professionnel de la mort. Donc c'est un tueur. Donc il pousse à la mort ou au suicide. Et il a le pouvoir de vous faire perdre le discernement du bien et du mal, ce qui est la mort complète. Vous prenez le mal pour un bien, le bien pour un mal. Et vous en arrivez à aimer faire le mal, en disant vous faites le bien. Vous pouvez éliminer les grands-pères grabataires en disant que vous débarrassez cet homme de la souffrance qu'il atteint à la fin de sa vie. Quelle belle charité. Et souvent l'argument de la charité pour faire le mal est employé par ceux-là même qui en sont les protagonistes. Donc c'est un tueur. Ce meurtre, ces meurtres, il les met en place par la haine. Si vous laissez la haine grandir dans votre cœur, la colère, la jalousie, ces sentiments dans votre être vont être des portes ouvertes. Et c'est là que la confession joue un rôle très important pour reprendre vie dans l'esprit, pour retrouver la jeunesse de votre baptême, qui est miséricorde, pardon, l'amour supporte tout, patiente. Il est aussi un meurtrier qui pousse au suicide. Donc, le meurtre, c'est cette violence, cette haine, cette colère, cette vengeance, cette jalousie qui peut aller jusqu'au meurtre. Je dis bien jusqu'au meurtre. Mais les histoires, par exemple, que nous entendons à la télévision ou à la radio de gens qui ont fini par commettre un crime, ils n'ont pas décidé du jour au lendemain. Comme on dit, la colère monta en eux. Ça commence par une rancœur, par un refus de parler, et puis après on en vient aux mains. On en vient aux mains. Dans l'ordre du suicide, on en vient au suicide. Un suicide peut être explicable de plusieurs façons. Il n'y a jamais une seule explication pour un suicide. Mais la présence du démon peut y être. Je me rappelle d'une jeune fille, lors d'une prière, une liturgie d'exorcisme, le démon s'est mis à parler par la voix de la jeune fille complètement déformée et il a dit « Et celle-là, je la tuerai. » Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui la tuerai. Elle se tuera elle-même. Or, effectivement, cette jeune fille nous avait dit quelques instants avant « Oh mon père, mes pères, ne me laissez pas si longtemps sans la prière de l'exorcisme. » La prière affaiblit le démon. J'ai eu des envies de suicide. Vous n'imaginez pas, mon père. J'ai cru que je n'allais pas résister. Donc, tout ce qui est de la part du démon, il divise les hommes. La division. Découragement. Tristesse. Dépréciation de soi. Culpabilité jusqu'au suicide. C'est un mécanisme qu'il peut mettre en place et qu'il faut absolument combattre par la lecture des Écritures, en enlevant le Saint-Sacrement, en disant son chapelet. Mais vous pouvez très bien être pris d'un seul coup d'une tristesse qui est peut-être une nuit de la foi, mais peu importe, ne laissez pas la tristesse dans votre être et la place à la tristesse. Soyez toujours joyeux, dit le Seigneur, et priez sans cesse. Donc, le démon n'est pas un rigolo, c'est vraiment un meurtrier, ou plus encore, quelqu'un qui a un seul but, détruire l'œuvre de la création. Dans le cas de possession, ce sont des gens qui ont besoin d'un secours, parce que le démon qui les habite les met dans un tel désastre intérieur où se manifeste à travers eux, indépendamment de leur volonté, par ce que j'appellerai des manifestations objectives et visibles. Et là, l'exorcisme peut intervenir. Les infestations peuvent être dues, par contre, simplement, à une action du démon, par le biais de vos faiblesses humaines, ou affectives, ou sociétales, ou relationnelles, ou culturelles. Cela peut aller jusqu'aux addictions, aux vices, etc. Les moyens, votre liberté n'est pas empêchée de pouvoir se dégager de cette emprise. Tandis que dans une possession, la personne, elle ne s'en sort pas. Même avec les sacrements, elle peine. Pour s'en sortir, vous avez toujours le moyen le plus objectif qui soit. Les Saintes Écritures, l'Esprit de l'Évangile, l'Esprit des Écritures. Les Écritures doivent devenir votre première langue vivante. Lisez-les jusqu'à y trouver de la joie. Il y a des choses très très simples à faire entre vous. Vous pouvez vous retrouver avec quelques amis, ou des amis, pour un temps de prière qui ne dure pas très longtemps. Prenez un passage de votre évangile, ou un évangile que vous proposez à vos amis. Vous le lisez, votre évangile. Vous faites un temps de silence, ensuite de 5-10 minutes, pas plus. Et à la fin, vous donnez la parole à chacun des amis qui va dire « Cette parole, je l'ai aimée parce que j'ai bien aimé ce passage. Ce passage-là, je le comprends moins bien. » Personne ne se répond. Personne n'explique à l'autre ce qu'il n'a pas compris ou ce que lui a compris. On ne se coupe pas la parole. On écoute le chemin de cette parole dans l'intelligence et le cœur de la personne qui est avec vous. Et à la fin, on arrête. Et on demande à quelqu'un s'il veut faire une prière. Spontanée. Mais vous n'imaginez pas que cette parole que vous avez écoutée, elle va résonner en vous toute la journée, en marchant dans la rue. La joie que vous avez eue, c'est une joie qui ne se flétrit pas, qui ne s'oxyde pas, puisque ça a touché votre imagination, votre intelligence, et ça peut mettre en route votre volonté. Les grandes facultés de votre âme qui vont être nourries de cette présence de la parole. Sinon, si vos facultés de l'âme sont habitées par les tentations ou les tentations auxquelles vous avez succombé, Vous êtes comme une écurie qui n'a jamais été vidangée et vous sentez le purin. Et après, vous êtes très poreux à la prochaine tentation. Et c'est la glissade, et c'est la glissade. Alors il faudra que vous fassiez une retraite spirituelle pendant 3 jours, et vous serez reparti gaillardement. Puis après, badaboum. Ou l'effet d'une bonne confession. 15 jours pour les meilleurs. Donc, vous avez les exercices spirituels également, chapelet, chemin de croix, pèlerinage, prière. Vous avez les jeûnes. Vous avez aussi les actes de charité, les offrandes. Bien sûr, confession et Eucharistie. La prière affaiblit le démon, mais commencez par la première marche. Et vous savez bien que la première marche de la tour Eiffel contient le sommet de la tour Eiffel. Si vous ne mettez pas le pied sur la première marche de la tour Eiffel, vous n'arriverez jamais au sommet de la tour Eiffel. La première marche est aussi importante que les derniers mètres. On n'est plus en forme pour les derniers mètres, on arrive au sommet. Mais commencez par la première marche. La première marche de la tour Eiffel contient déjà le sommet de la tour Eiffel. Alors la première marche de la vie spirituelle, les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas avoir une Bible que vous laissez de côté. Un jour, je reçois une personne qui avait une vie très, très mal emmanchée. Elle avait une expérience humaine de moins de 60 ans. Et elle venait à l'exorcisme pour une prière de libération. Ce qui a été fait. Elle revient heureuse de cette libération inespérée. Elle n'avait jamais connu ça pendant un mois de toute sa vie. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors, comme bon prêtre un peu pieux, je lui dis, allez à la messe tous les dimanches. Quand j'ai vu sa tête, je lui dis, ça ne va pas le faire. Je lui ai proposé autre chose alors. Et comme c'était une personne qui avait une grande culture littéraire, je lui dis, vous avez déjà lu Phèdre en entier? Oui, mon père. Vous avez déjà lu le Père Goriot en entier? L'Assommoir? Ben, bien sûr, ça je connais, mon père. Avez-vous déjà lu l'évangile de selon saint Marc en entier? Ah non. Il y a des personnes qui n'ont jamais... À la messe, vous l'entendez par petits bouts. Mais s'asseoir, en ouvrant sa Bible, maintenant, je vais lire tout l'évangile selon saint Marc. Et je m'y mets. Vous savez combien de temps il faut pour lire saint Marc? 2h30, 3h. Et c'est pas cancérigène. Comment voulez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Dit saint Paul. Alors, pour être sûr qu'il allait bien le lire, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à lire, qui partent dans tous les sens, dit, et comme il était assez pratique et mécanique, il dit, écoutez, monsieur, vous m'achetez un cahier, faisons de la réclame, Étival Clairefontaine, petit format. Page de gauche, blanche. Page de droite, vous recopiez l'évangile selon saint Marc. Ah, ça, je veux bien faire, mon père. Et vous allez me voir quand vous l'aurez recopié. Il m'est déjà arrivé de donner ça comme pénitence. Hein. Là, je ne plaisante pas. Pourquoi? Pas parce qu'il faut que ce soit méchant et sévère. Si tu fais ça, j'ai gagné une bataille. Dans ton cœur, tu auras connaissance de l'Évangile. Il faut au moins faire une fois dans sa vie le tour du lac de Nazareth, de Capharnaüm, à pied avec Jésus une fois. On doit avoir tous fait un bout de chemin à pied avec Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Il faut avoir lu un évangile et en connaître un presque par cœur. Et pas du bout de chandelle par-ci, par-là. Et souvent, le drame, c'est que vous dites, « Ah oui, mais je connais déjà, j'ai déjà entendu. » Mais jamais de la vie. Si tu creuses, tu vas voir. Par exemple, avez-vous vu dans l'évangile de dimanche, Jean-Baptiste cite des passages. C'est Isaïe, mais il n'y a pas qu'Isaïe. Il cite qui? Malachie. Et Malachie, c'est quoi? Le dernier texte de l'Ancien Testament. Oh, c'est incroyable. Moi, ça m'a mis en joie. Comme ça se raccorde bien. De l'Ancien au Nouveau. Ça s'ouvre. Chacun va avec sa joie. Bien. Donc, je vous dis, dans le combat spirituel et le Verbe s'est fait chair, ne manquez pas les Saintes Écritures. et faites-le avec d'autres, vous en verrez grande joie. Les cas de possession, je vous l'ai dit, il faut le secours, absolument le secours d'une prière où on affronte directement le démon. Une prière d'exorcisme est une prière impérative où l'on dit au démon, je te l'ordonne, au nom de Jésus de Nazareth, quitte cette personne. Les personnes possédées, nous recevons 2500 appels, à peu près par an, par le téléphone. Nous en recevons chacun 600, donc sur les 2500, il y en a 1200 de reçus par les prêtres. L'entre-deux est reçu par des personnes qui collaborent, religieuses, laïques, écoutants, écoutantes, et les personnes qui ont vu les écoutants, parfois jugent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un prêtre, qu'ils ont eu la réponse à leurs questions. Parmi les personnes donc que nous recevons, il y a des personnes qui sont possédées. Les personnes reçues, ça relève bien sûr de la discrétion de leur visite, de leur vie privée et de leur vie spirituelle. Les emprises démoniaques peuvent être dues à des pratiques ésotériques, en particulier tous ceux qui s'engagent dans des dialogues ou avec le démon ou avec des propos provoquants pour le démon. Come up, il chante, viens. Donc, il tourne en dérision le mystère du mal, le démon, et il se trouve d'un seul coup confronté à lui. Les pendules, on n'aime pas. Les horoscopes, ça, c'est n'importe quoi. C'est indigne d'un chrétien. Si on vous demande de quel signe vous êtes, vous répondez du crapaud. Vous prenez du... Ne répondez jamais par un signe de l'horoscope, ça veut dire que vous êtes dans le système. De quel signe vous êtes mon père ? Du crapaud. Oh. Vous voyez bien, chers amis, que nous sommes dans l'univers. Et dans l'univers, tout a une influence sur tout. Si je prends votre nez, je multiplie par 4 fois puissance 32, fois puissance 32, j'aurai très vite la distance exacte de la Terre à la Lune. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Les carottes, ça pousse grâce à la pleine lune. On ne sème pas à n'importe quelle lune, lune montante, lune descendante. Donc, excusez-moi, il y a les forces telluriques, il y a plein de forces. Bien. Comme nous sommes à l'époque des micro-ondes et des ondes, positives ou négatives, je vous en prie, calmons-nous. Le diable est un ange et rien d'autre. Les diables, ce sont des anges. En tant que chrétien, on attend ça de vous. Sinon, vous allez me refaire du reiki, du yoga comme ci, du yoga comme ça. Du calme. Vous allez positiver, manger des herbes pour être bien. Vous devez craindre une seule chose, mes amis, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu parce que vous êtes appelés à la vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas dans l'ordre du confort sur la terre qui veut s'organiser un petit paradis tranquille en évitant les forces négatives qui m'empêchent d'avoir mon travail, d'avoir mon petit copain. Que de gens viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de petit ami. Et souvent certains ont été mariés 3 fois déjà. Ils sont malheureux de ne pas avoir un petit conjoint à 65 ans. Ah oui, mais quand même, vous exagérez pas un peu, non? Mais voyez bien que on peut pas avoir le démon partout, mais on doit avoir une juste vision de ce que c'est que la grâce de l'évangile, le bonheur ou le malheur. La foi permet de traverser le malheur. Jésus n'a pas promis de vous rendre heureux sur la terre. C'est ce que Bernadette Soubirou a entendu de la Sainte Vierge, je crois. Donc, si vous avez la foi, vous aurez la force. Alors, les tentations. Les tentations, c'est très simple parce que c'est là le problème du combat spirituel. Comment résister aux tentations? Ne laisse pas entrer en tentation, ne laisse pas succomber à la tentation. Ah! Une petite question. Le jugement dernier, comment vous le voyez le jugement dernier? Il y aura un jugement à la fin des temps et c'est le Christ qui l'exercera. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, la miséricorde du Christ lui remet le jugement, comme il a pardonné à tous les hommes. Eh bien, vous avez vu, il va faire un jugement de bon berger. Ce ne sera pas le procès avec, sur une liste, vous savez, des chicanes, tout à fait ceci. Ce ne sera pas un procès de reproche. Il ne viendra pas là faire la liste des biens, des bonnes choses que vous avez faites. Il viendra séparer. Il séparera les boucs et les brebis. Donc, il empêchera que l'injustice, il empêchera que la mort soit donnée à ses enfants. Il va séparer les méchants des bons. Les cœurs endurcis des agneaux. Il empêchera les loups de manger les agneaux. Ah, moi, ça me fait. Moi, j'aime bien cette vision du jugement comme une séparation. Je crois que c'est Ousmane Balthazar qui explique ça. Ou quelques grands saints. Une séparation. Donc, si vous ne voulez pas tomber en tentation, séparez-vous du démon. On ne discute pas avec lui. Si ta main droite t'entraîne en tentation, coupe-la. Si ta main est une agression pour ta vie, sépare-toi de ta main. Ou mieux entrer borne dans le royaume des cieux. Cette notion de séparation est très importante dans l'évangile. Se séparer. Vous dites bien à vos enfants, tu ne suis pas les mauvais exemples, hein, mon chéri. Hein. Bien. Donc, la tentation, je vous l'ai déjà dit, la tactique du diable, c'est toujours la même. Et les hommes ne sont pas en mesure de tenir tête au démon. S'ils ne le font pas, selon les recommandations du Seigneur. Jésus a été tenté par le démon, et le démon tente les hommes, et il tente aussi le bon Dieu. Il a peur de rien, lui. Il a tenté Jésus. De manière générale, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Là, je ne peux pas dire que ce sont dans les Écritures. C'est plutôt dans le catéchisme. Mais voyez comme il fait avec Job. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu par rapport à Job? Oui, bon, si Job il t'aime, hein, c'est parce que tu le gâtes. Mais si tu ne le gâtais pas, tu verrais qu'il ne t'aimerait plus. Hein. Il tente Dieu, il ne tente pas que Job. Il dit à Dieu, mais regarde ces hommes, tu es mort pour lui, pour eux, à quoi ça sert? Ils vont t'oublier, leur Dieu c'est leur ventre. Ton sang, ils n'en ont que faire. Et encore, ils arrivent en retard à la messe, ils viennent dans le temps, entre deux potes au feu. Parce qu'après, ils sortent vite pour la cuisson. Hein. Ah, si le bon Dieu regarde, si le démon regarde nos comportements, il a de quoi attaquer, décourager le bon Dieu, parce que la liste, c'est comme ça, hein, pour moi et pour vous. Et qu'est-ce qu'il dit aux hommes? Mais votre Dieu n'existe pas, regardez tout le malheur qu'il y a dans le monde. Regardez tous les malheurs, toutes les guerres. Si Dieu était bon, il ne ferait pas ça. Il est sourd, votre Dieu. Il y va des deux côtés. Donc le démon, on appelle le tentateur. Trois étapes de la tentation, je vous les donne. Suggestion, délectation et consentement. Je m'amuse avec une joie à regarder les affiches du métro. Je vois ce qu'elles suggèrent, ce qu'elles tentent. C'est un régal. Nouveauté. Ça flatte quoi? La vanité ou la gourmandise, ça flatte. Les mots sont bien choisis. Première étape, suggestion. Une question, j'espère que ce ne sera pas sur les ondes de la radio et des médias, mais les dames, l'été, elles s'habillent l'été, les dames. Elles s'habillent aussi l'hiver. Vous croyez que leur décolleté proportion et respecte le degré et la chaleur des thermomètres? Que pensez-vous des vêtements féminins? Normalement, il fait froid, c'est couvert, il fait chaud, c'est découvert. Eh bien, j'ai l'impression que le décolleté, il sert quand même à autre chose, le tricot ou le corsage qu'à habiller la personne. Ça sert aussi à suggérer quelque chose. Et parfois, on dit, vraiment, t'as pas vu comment cette dame, elle ferait mettre s'habiller mieux que ça. Hein? Parce que ce qui est à suggérer n'est pas très élégant. Ça, c'est les messieurs qui disent ça. Mais ça veut dire quoi? Quand on passe de la suggestion à la délectation, c'est foutu. La tentation est entrée en vous. Suggestion, délectation, C'est foutu, c'est le cœur qui part, c'est la passion qui s'enflamme. Et la raison ne sert plus à rien. C'est question de délectation, boum, on arrive au consentement très vite. Donc il faut résister à délectation. Jésus dans le désert, si tu es le Fils de Dieu, change, suggestion, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il le tend dans son pouvoir créateur. Est-ce que Jésus n'est pas celui qui marche sur les eaux? Est-ce que ce n'est pas celui qui change l'eau en vin, qui commande aux éléments? Et il le tente à ce niveau-là. Que fait Jésus? Pour ne pas consentir, il dispose de la parole de Dieu. Et il lui dit, ne sais-tu pas qu'il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu? Ah, l'autre, le bec est clos. Mais vous, mes amis, si vous n'avez pas la parole de Dieu comme première langue vivante, vous ne saurez pas résister, vous vous ferez avoir. Le démon est même capable de citer les Écritures. Deuxième tentation, il revient. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, regarde tous ces royaumes. Je te les donnerai. Non, c'est le dernier, ça. Avant, jette-toi en bas. Je ne me souviens plus, mon père. C'est quoi la deuxième? Oui, il est écrit. Voilà, jette-toi en bas, les anges te porteront. Il a bien compris que Jésus lui résiste par la parole de Dieu. Mais il n'en donne toujours qu'une petite partie. Pour qu'il oublie le reste. Donc il montre qu'il sait aussi, il connaît aussi la parole de Dieu. Et lui dit, jette-toi en bas, il délecte-toi. Il a dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la troisième, il se démasque, c'est le consentement, adore-moi. Le démon, lors d'une prière d'exorcisme, on était des braves prêtres, moi je commençais à peine mon ministère, je fais gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et là, la personne possédée se retourne et hurle, « Non, gloire à moi, à moi, à moi, gloire à moi !» Gloire à moi. Vous savez, il n'y a pas de prière qui... Toute prière que vous prononcez avec le cœur est une joie pour le Seigneur. Dire gloire au Père, j'étais content que le Père le dise tout à l'heure. Moi, ça m'a fait partir vers le plafond. Chaque fois qu'il y a un être humain qui dit gloire à Dieu, c'est l'humanité qui va au ciel. Chaque fois qu'il y a un homme qui s'incline devant le tabernacle, l'humanité va au ciel. Ça honore l'amour du Seigneur. Donc, suggestion, délectation et consentement. Je raconte une histoire que je raconte toujours parce qu'elle est vraie. La personne à qui c'est arrivé, je ne dis plus son nom parce qu'elle a pris du grade, mais elle était venue manger avec moi à la maison. Elle ne voulait pas prendre de dessert. Je dis, toi, tu prendras un dessert avec moi. Donc, méthode du diable. Je vais à la cuisine et je rapporte à la salle à manger une coupe pleine de fruits. On m'avait donné une quantité de fruits de toutes sortes. Donc, je vais utiliser les cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est par là que ça rentre, les tentations. Ça ne peut pas rentrer par les cheveux parce qu'ils ne reniflent pas. Ça rentre par vos sens, les cinq sens. Et ça passe ou à l'imagination, ou à l'intelligence, ou à la volonté. Et je lui dis, regarde ces beaux fruits. Je prends par les yeux. Regarde cette belle coupe de fruits. Je vais de le faire flancher. Après, je prends les adjectifs. Je donne du mouvement. Allez. Allez. Vous savez, on capte. On capte l'affection, on enlève le cerveau. Allez, un petit kiwi. Et il me répond, non. Non. Et il commence à discuter avec moi. On discute avec le diable, c'est foutu. Non, ça empêche de dormir. J'ai gagné. Il a discuté avec moi, ça empêche de dormir. Donc il veut un fruit qui fait dormir. Très bien, je vais t'en trouver un. J'avais une porte qui s'ouvrait. Il ouvre la porte sans s'en rendre compte. Et je lui dis, après, quelques cerises. Vous avez vu quelqu'un qui mange une cerise qui ne mange pas deux, vous? Jamais. Donc, je connais les pentes des palais humains. Vous savez qu'on trompe sa femme qu'une seule fois, vous croyez que ça, c'est comme les cerises, hein? Une, deux, trois. Bien. Non, mon père. Très bien. Après, je reprends les yeux. T'as vu la belle mangue? C'est la fin de saison, il faut en profiter. L'argument de la maîtresse de maison, hein? Il faut terminer le plat. Hein? Elle invente un commandement qui n'existe pas, mais il faut terminer. Hein? Elle vous fait croire que vous êtes charitable en terminant le plat, même si vous n'avez plus faim. Il faut, vous n'avez quand même pas laissé ça. Mais pourquoi on ne le laisserait pas si on n'a plus faim? Moi, je ne me fais pas avoir. Hein? Au restaurant, mon père, un petit dessert. Non, un gros. Ils sont affolés, ils ne comprennent pas. Parce qu'à la fin du repas, il ne faut pas proposer un gros dessert, vous n'allez pas l'acheter. Il vous le petit dessert. Quand on vous parle, vérifiez ce qu'on vous suggère, surtout chez les commerçants. Et alors, une mangue, elle est juste mûre, ce sont les dernières, il faut en profiter, tu n'en auras plus des pareilles. Non, mon père, je n'ai plus faim. Bon, un être humain, il ne faut pas l'écouter, à l'usure, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'usure, repasser une deuxième fois, une troisième fois. Comme il m'a pas cité de parole de Dieu, j'ai encore le temps. Et il me dit, je prends le dessert le plus bête du monde, le plus idiot du monde. Ce qui marche une fois marchera 100 fois. Quand vous venez vous confesser, vous me dites toujours les mêmes péchés, c'est gagné d'avance. Alors je dis, une pomme, ça fait dormir. Je l'attendais. Il me dit, non mon père. Ah bon? Je l'écoute pas. Une moitié? Non, mon père. J'épluche. Au bout de mon couteau. S'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Hein? Mais c'est à lui de le savoir. Hein? Parce que moi, je sais ce que je veux. Et le démon, c'est toujours ce qu'il veut. Hein? S'il y en a un qui ne se trompe pas sur ce qu'il veut, c'est le démon. Hein? Un quartier? Il a pris le quartier, il l'a mangé, sans rien dire. J'en ai épluché un deuxième, un troisième, il a mangé la fin de pomme, comme moi. J'avais affaire à qui, à votre avis? Parce que, puisqu'il a succombé, je sais à qui j'ai affaire. Donc la prochaine fois, le démon est informé pour commencer. J'avais affaire à un paresseux, qui n'avait pas envie d'éplucher une pomme, mais bien d'ouvrir la bouche. Eh oui, chaque fois qu'on succombe, on démasque l'attachement que nous avons. J'ai péché, non, j'ai aimé pécher. Et pourquoi elle aimait manger ma pomme? Pas pour la pomme. Oui, peut-être, mais il était paresseux. Ce qui était très, très vrai. Bien. Donc voici un exemple. Suggestion, délectation et consentement. Pour vous dire que le démon vous tente vraiment et que pour lui résister, il faut être habité par l'Esprit du Seigneur qui vous fera voir que je n'avais pas envie qu'il mange une pomme parce que... c'était pas sa maigreur qui me le faisait faire manger. C'était mon égoïsme à moi qui voulait l'amener là où moi je suis. Dans mon paradis à moi. Alors n'allez pas dans le paradis du démon. Hein. Voilà un exemple. Les tentations, c'est vraiment là que s'exerce le combat spirituel. Et ce que je vous explique là, c'est un commentaire de Saint-Augustin sur le passage de l'évangile des tentations du Christ. Bien. Le démon, quand il vient, il dit généralement comment il va partir. Dans les exorcismes, il est vraiment très vaniteux, il dit comment il s'en va, parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Lors d'un exorcisme, à la fin, on ne savait pas comment terminer l'exorcisme, et nous sommes fermés au mois de juillet et au mois d'août, ce qui est absolument incroyable que pendant 2 mois, les prêtres partent en vacances, comme ça. On pense remédier ça prochainement. C'est parce qu'on n'a pas d'écoutantes qui sont là pour prendre les appels et on ne peut pas nous recevoir. Et... Donc, la personne en question était donc couchée par terre sur le sol. Et là, le père avec moi commence la prière à Saint-Michel et je me dis, mais comment va-t-on aider cette pauvre jeune fille parce que nous sommes fermés l'été? Et là, elle se met dans sa voix à hurler. Mais qu'elle y aille donc à Lourdes, cette Vierge l'attend, mais qu'elle aille donc à Lourdes. Ah, bingo. Alors, J'ai dit, mademoiselle, vous êtes déjà allée à Lourdes après ? Ah non, mon père. Mais allez donc à Lourdes, ça vous intéresserait ? Ah oui ? Eh bien, allez à Lourdes. On la retrouve quand même en septembre. Elle est allée à Lourdes. Mais mon père, je n'ai pas trouvé de paroisse qui allait à Lourdes. Mais elle est à Lourdes de vous-même, avec un membre de votre famille, allez-y. On la revoit en décembre. Mais alors, mais mon père, c'est pas ma faute, mon père. On avait pris les billets de train, on avait pris l'hôtel pour y aller. On n'a jamais pu prendre le train. On l'a raté. On était bloqué dans le RER pendant trois quarts d'heure. On a raté le train. Voilà, des contrariétés. Ça peut être une chaudière, des appareils qui tombent en panne, une bénédiction, puis on repart. Surtout, ne vous laissez jamais inquiéter. Ne rigolez pas quand je dis une bénédiction. Ça veut dire quoi ? Tenez votre âme égale et silencieuse. Ne vous inquiétez pas par les contrariétés mécaniques, techniques. On trouvera une solution. On trouvera une solution. Donc voilà un exemple de... Le démon dit comment il va partir. Il est tellement vaniteux qu'il le dit. Alors, les cinq points d'une présence démoniaque, nous les avons, je l'ai dit à chaque fois, si vous rencontrez des personnes possédées, ça m'étonnerait, mais quand vous les reconnaissiez, mais parce qu'elles peuvent très bien prendre un whisky avec vous ou acheter des salades sur le marché, ça ne change pas, ça. Hein. Mais une personne possédée, quand nous avons dans les signes indiscutables d'une possession, des phénomènes corporaux anormaux. Vous avez le don de parler une langue qui n'a pas été apprise. J'ai deux exemples maintenant. J'en avais un il y a quelques temps, maintenant j'en ai deux. La jeune fille en question, lors de l'exorcisme, pour vérifier sa santé mentale, elle est peut-être un peu hystérique, ou peut-être, voilà, mon confrère lui a parlé en hollandais. Elle a répondu en hollandais couramment, elle ne l'a jamais appris. Le démon parle toutes les langues, il a accès à l'homme complet, mais pas à vos pensées. Je me rappelle, dans l'exorcisme, on a dit, bon, maintenant, en silence, prions. Je ne sais pas si le démon était furieux, que je disais, en silence, prions, en silence. Il s'est mis à hurler, pas de silence, pas de silence pour les hommes, hein. Pas de silence. Il a même été jusqu'à dire, j'ai mis la télévision en place pour cela, pas de silence. Le démon est très précis, vous savez. Ne pensez pas qu'il voit les choses en gros, comme ça, par hasard. Vous voyez que vos histoires en gros, c'est pas bon, hein. Au ciel, c'est très précis. Aux cheveux près. Je me rappelle une dame qui vient me voir, elle dit, mon père, avec mon mari, on a eu un petit garçon et une petite fille à 12 ans, on n'arrive plus à avoir d'enfant. Et cette dame me demande une prière, parce qu'elle a des difficultés, fausse couche, aucune naissance n'aboutit, enfin, grossesse extra-utérine, dit mon père, ça c'est pas de Dieu. Faites une prière pour moi. Je dis, je veux bien faire une prière pour vous, madame. Mais, dites-moi, je vais prier pour quoi ? Un garçon ou une fille ? Oh mon père, Dieu sait très bien ce que Dieu voudra. Je dis, madame, si vous ne me dites pas un garçon ou une fille, je ne prierai pas pour vous. Parce que, avoir une prière si large que Dieu ne peut pas vous dire non, moi je ne marche pas. Si je prie, il faut que Dieu puisse vous dire non. Vous voulez une prière que pour le oui. On prie aussi pour le non. Il vous dira oui ou il vous dira non. Alors madame, un garçon ou une fille ? Ben, madame, écoutez, vous avez une fille, on va demander un garçon. Madame, vous le voulez pour quand ? Rapide, pas rapide, 2 ans, 3 ans, quand voulez-vous ? Prématuré ? Oui, oui. Ça pousse un certain tranchement. Écoutez, madame, on va demander... Je dis, ben pour le mois de mai. Bon, je prie un petit garçon pour le mois de mai. Très bien. Mais, quand on prie et qu'on demande quelque chose au bon Dieu, on ne fait pas ses courses. On prie de telle sorte qu'on réfléchisse, est-ce que ça va lui faire plaisir ? Est-ce que je lui laisse le choix de me dire non ? Beaucoup de gens prient pour avoir ce qui leur plaît, et ils ne veulent pas que le bon Dieu leur dise non. Vous pouvez repasser, hein. Quand je demande quelque chose au bon Dieu, je lui dis, je suis même plus prudent que ça, moi je dis, Seigneur, inspire-moi la prière que tu as envie d'exaucer. Mais il faut qu'elle soit formulée précisément. L'incarnation et le Verbe s'est fait chair. Si vos prières, ce sont des prières de fantômes, non. Découvrez-vous dans vos prières. Vos prières doivent dire qui vous êtes. Elle voulait vraiment un bébé ? Ben qu'elle le demande. Et là, en juin, coup de téléphone. Allô, mon père, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Oui, non, madame. Mais c'est si, je suis la dame qui est venue vous demander une naissance. Je ne me souvenais pas d'elle, mais pour lui faire plaisir, je commence à me souvenir. On n'a pas le droit de mentir, hein. Puisqu'elle me le disait, je commence à me souvenir. Et vous savez, mon père, hein, eh bien, j'ai eu un petit garçon. Ah bon ? Très bien. Et on l'a appelé Clovis. Ah bon ? Et il est né quand ? Au mois de mai. Ah bon ? Et le combien ? Le 31. Ouf ! Le bon Dieu exauce toujours à la dernière minute. Deuxièmement, mon père m'avait dit que j'avais une tête de grognasse, ce qui était vrai. Elle venait me demander une prière au bon Dieu, mais avec une tête. On aurait cru qu'elle avait intérêt de Johnny Hallyday. Alors, c'est pas possible. Et puis, que j'aille chez le coiffeur. Alors, mon père, mon mari trouve que j'ai une meilleure tête, ça va beaucoup mieux. Alléluia, madame. Et je suis allé chez le coiffeur. Il m'a dit qu'avec les cheveux que j'avais, il ne pourrait pas en tirer grand-chose. Mais vous voyez cette dame, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait la foi et qu'elle acceptait de prendre le chemin de la foi. Quand on demande, elle était humble en plus, humble. Vous voyez, quand la Vierge, elle a dit oui au bon Dieu, elle n'a pas posé les questions du comment, du pourquoi. Elle a dit oui sans avoir les contours de son oui. Et Dieu l'a entraîné dans son oui. Il faut faire au bon Dieu à la fois une prière précise pour qu'il me dise non, mais il faut être aussi ouvert à tout ce qu'il va donner. Et le non en fait partie. On peut avoir des noms qui sont des prières d'exaucement. Parce que vous pensez que le oui, c'est... Quand il me dit oui, je suis exaucé. Non, le non est aussi une prière d'exaucement. Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il le fait. Voilà. On n'a pas de droit aux choses et aux grâces. Donc cette dame, elle a eu son petit garçon. Oh, j'en ai d'autres histoires de ce genre. Hein. Je peux vous en raconter d'autres. Hein. Une dame n'avait pas de bébé toujours. Et cette dame qui n'avait pas de bébé, je lui dis, madame, vous irez à Notre-Dame des Victoires, vous demanderez rien au bon Dieu, rien. Vous lui direz simplement votre souffrance. Vous irez vous agenouiller au pied de la table de communion. Vous agenouillez, voilà, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je suis malheureuse. C'est tout. Mais dites-lui, votre cœur qui souffre, c'est tout. Et, alors, elle a eu une petite fille, effectivement. Et elle me dit, vous savez, mon père, ce qui s'est passé ? J'ai pas fait ce qu'on m'avait dit, je suis pas allé devant, je suis resté au fond. Comme dans l'évangile avec le publicain, le pharisien qui était au fond, qui disait sa souffrance. Souviens-toi de moi. C'est là que je prends mes idées. Quand j'ai une analyse, le publicain, il est au fond, il est crevé, il est épuisé, il dit, Seigneur, je suis un homme pécheur, aie pitié de moi. Et bien cette dame était au fond de l'église et puis elle dit sa peine. Elle va chez le gynéco quelques jours après qui dit, madame, vous êtes enceinte depuis 15 jours. Eh oui, le temps de Dieu, il voit vos cœurs, voilà. Donc, le parler en langue. Ensuite, le démon peut connaître des choses, lui seul, que les autres ignorent. Je me rappelle, et j'ai rencontré cette personne qui a reçu l'exorcisme. Pendant l'exorcisme, le démon lui faisait voir les péchés des personnes qui étaient là en train de faire l'exorcisme, les prêtres en particulier. Et il dit à un prêtre, toi, croissant au beurre, tais-toi. Il est maintenant devenu évêque de Martinique. Monseigneur Macaire, exorciste. Toi, croissant au beurre, tais-toi. Les copains lui disent, mais pourquoi tu as appelé croissant au beurre ? Alors, mais je l'ai déjà confessé. Je reviens à ce que je disais au début. Le démon peut rappeler des péchés pardonnés pour vous mettre dans le désespoir. Il l'a fait avec Judas. Il fait désespérer de la miséricorde. Et le prêtre dit, ben, il raconte. L'autre jour, quand je rentrais de Rome, j'ai mangé 8 croissants au beurre. Il s'est goinfré. Et le même évêque dit, moi je ne prends pas la soutane parce que ça me grossit trop, je préfère l'habit dominicain. Donc, non. La gourmandise en soi, si ça n'entraînait pas d'autres péchés, ça ne serait pas grave. Donc voilà. Ensuite, une force physique décuplée, les blasphèmes et les injures, et une haine viscérale contre Dieu, la religion et les choses de Dieu. Moi, je pense que les fémènes qui se sont comportés dans des actes de vandalisme des autels et des objets liturgiques, c'était démoniaque. Elles étaient hors d'elles-mêmes. Elles n'étaient pas dans l'esprit de leur esprit. Voilà les phénomènes que nous rencontrons dans les exorcismes. Et on peut faire 9 exorcismes, il faut du temps, parfois beaucoup de temps et parfois pas du tout. Et il n'y a pas une situation qui est pareille à une autre. Il n'y a pas un possédé pareil. Dans les exorcismes, certains se souviennent, d'autres ne se souviennent pas. Voilà. Et certains réagissent à l'eau bénite, d'autres réagiront au crucifix, d'autres ne réagiront ni à l'eau bénite ni au crucifix. On leur dira « Renoncez-vous à Satan », ils diront « Je renonce ». Et d'autres diront « Je relance ». Très différent. La litanie des saints. Oh, la litanie des saints. Sainte Thérèse. Pas celle-là ! Ou bien « Et vous, les justes du Seigneur, Marthe Robin, mais elle est déjà là !» Mais elle est déjà là. Voilà. Donc, vous le voyez, la douceur du ciel, les choses de Dieu sont simples et bonnes. Le démon ne supporte pas. Il n'aime pas les crucifix, hein. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut partir en guerre contre lui. Vivez votre vie. Le démon est un perdant et saint François lui disait « Ouvre ta bouche que j'y fasse dedans ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est théologique, hein, ça. Quand il dit au démon « Ouvre ta bouche que j'y fasse des dents », le démon, il est nauséabond. Donc quand on a du nauséabond à faire, on le fait dans les conduites adaptées au nauséabond. On ne confond pas l'eau potable et l'eau usée, d'accord? Donc on va mettre dans les eaux usées le nauséabond. Parce que quand on dit à l'office « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », comme il ne publie pas la louange de Dieu, lui, eh bien, ouvre ta bouche que j'y fasse dedans. Je te rends ce pourquoi tu te comportes. Je te rends mettre ta pièce. Saint François d'Assise, il n'a pas parlé n'importe comment. Donc, voilà mes amis, sachez que tout le mystère du Christ et du démon se situe à la croix. Le Christ a porté les assauts du démon et c'est le démon qui a fait mourir Jésus. Quand la possédée se met une fois à commenter l'évangile, elle dit « Je déteste le silence de Jésus devant Pilate, insupportable. Le silence de Jésus sur la croix m'a tué. Pas de silence pour les hommes, pas de silence. » Et il a rajouté après « Et cette femme qu'il aimait, elle l'aimait cette femme, elle l'aimait, elle ne murmurait même pas. » Elle n'était pas révoltée contre Dieu de voir son fils mourir, lui la victime innocente, parce que Marie connaissait le cœur de Jésus. Elle n'a pas fait de procès aux hommes. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais Marie se tait. Elle ne dit rien. L'image, la Pietà à Rome. Mais n'avez-vous pas vu un jour quelqu'un qui a voulu la fracasser? Cette image, cette simple sculpture qui évoque la miséricorde, c'est énorme. Tant qu'il restera sur terre une vision de la miséricorde de Dieu, il y aura un destructeur de cette vision. Le mystère du mal dépasse l'être humain. Et la violence de ce mystère dépasse l'être humain. Voilà. Mais bien sûr, attention mes amis, je vous dis ceci, attention, ce n'est pas le diable qui est forcément le responsable de tout le mal qui existe sur la terre. L'incurie des hommes est aussi pour quelque chose. Non, Saint Jean Chrysostome dit, ce n'est pas le diable, mais l'incurie propre des hommes qui cause toutes les chutes, tous les malheurs dont les hommes se plaignent. Hein. Vous n'êtes pas les pauvres petites victimes du démon, puis lui, hein, moi, coupable mais pas responsable, ça ne marche pas ça. Hein. Quand vous dites à la messe, c'est ma faute, d'ici peu vous leur direz d'ailleurs, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ça veut dire que j'ai aimé faire ce péché. Hein. Ah, il y a des péchés que vous aimez faire, hein. Si vous les faites, c'est que vous les aimez quelque part. Hein. Parce que vous ne faites pas ce que vous n'aimez pas. Donc si vous faites un péché, vous dites, j'ai été surpris, l'habitude. Non. L'habitude diminue la responsabilité. Mais moi, jamais je me promènerai dans la rue avec des hauts talons et des bas aiguilles. Hein. Jamais, hein, j'aime pas ça. Hein. Ah non. Je ne porterai jamais de perruque, hein, j'aime pas ça. Hein. Mais si vous avez fait quelque chose, c'est que quelque part, vous avez mis de la malice. Donc à la messe, vous accusez non pas d'être pêcheur, un métier, une profession, mais que vous avez mis de votre cœur dans le fait de l'avoir fait. Petit, moyen, très grand. Appelle un vice. Vous voyez ? Attention, mes amis. Hein, être pêcheur, ce n'est pas vague et informe. Et les gens viennent se confesser qui me disent « Oh mon père, vous savez, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, on ne fait plus grand-chose. Hein. Il ne reste plus grand-chose qui marche, hein, mon père. Hein. Un peu de gourmandise, un peu de paresse, un peu de médisance. » Je dis « Mais madame, attention, avec un peu de farine, un peu de lait, un peu d'œuf, on peut faire une sacrée crêpe. Hein. » C'est le plus dur, vous savez, la meilleure façon, c'est de travailler bien votre examen de conscience, de faire de belles confessions. Il y a un jour, une dame qui vient se confesser me dit, mais vous m'accusez des péchés de votre voisine ou de votre voisin ou de votre mari, là, c'est de qui vous parlez, là? Vous dites, j'ai fait ça, mais c'est la faute de monsieur un tel, j'ai fait ça, mais c'est la faute de mes petits-enfants, j'ai fait ça parce que le facteur est arrivé en retard. C'est les péchés de qui? Une personne qui vient se confesser dit, mon père, je suis triste, je suis déprimée, je suis gourmande, je suis jalouse. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi aussi je suis jaloux, moi aussi je suis gourmand. Mais je ne l'ai pas été. Donc je suis, ça s'appelle une dépression, j'ai fait, ça s'appelle un péché. Eh bien oui, n'accusez pas ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes, soyez heureux d'être ce que vous êtes. Moi je m'aime, je dis toujours. Il faut s'aimer. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, la foi, c'est ce que vous avez fait. Et ne vous ratez pas. Hein. Quand j'ai fait tel péché, j'ai dit, Seigneur, je me suis baffré de pistache. Ah, Seigneur, c'est moi tout craché, ça. Seigneur, j'ai mangé la plaque au chocolat. Ça, c'est moi tout craché, Seigneur. Seigneur, j'ai sapé mon bréviaire. Ça, c'est moi tout craché, Seigneur. Je le regrette. Mais si vous ne reconnaissez pas, vous ne vous corrigerez pas. Votre indulgence, ce sera une fausse miséricorde. Ne vous ratez pas. Hein. Ne soyez pas sadomaso non plus. Hein. Si vous voulez vous en persuader, on peut vous proposer de vous confesser publiquement vos péchés devant tout le monde. On verra ce que ça donnera. Mais soyez prêts à le faire. Jésus a dit que celui qui est sans péché vous jette la première pierre. Voyez bien, pas de danger. Personne ne la jettera. Même pas la Sainte Vierge était avec nous. Donc voilà. J'ai terminé. Si vous pouvez me poser des questions, je compléterai. Mais « Et le Verbe s'est fait chair », eh bien, je vous le dis, la nouvelle création est à l'œuvre. Soyez des collaborateurs de la nouvelle création, vous-même et vos frères, et ne soyez pas des gens dans la peur. La première victoire du démon, c'est la peur. Et les soucis. J'ai tenu mon père, hein, j'ai fait une heure, pouf. Mais confessez-vous avant Noël.
Oui, ça, on va leur rappeler.
Oh, je sais bien, mon père. C'est
on va leur rappeler.
Je sais bien que... Elle est prêtre aussi. Hein.
Les prêtres aussi, les prêtres d'abord même. Hein. L'heure est quand même avancée, donc on va juste prendre l'une ou l'autre question. Voilà, question brève.
Bonsoir. Je voulais que vous parliez un peu des infestations, si c'est possible, et comment on peut s'en débarrasser. Enfin, j'ai entendu parler des prières de rupture de lien. Voilà, si vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus.
Je peux vous répondre. Quand vous me posez la question, vous me proposez tout de suite des prières à dire. Or, la première réponse à vous donner, c'est à vous-même de vous délivrer, madame. C'est à vous-même, par votre vie chrétienne, votre pratique religieuse, votre foi. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, elle déplacerait des montagnes. Donc vous êtes la première actrice de votre demeure, demeurez en moi. Donc être délivré, c'est demeurer en Dieu. Donc demeurez bien en Dieu et vous ne faites pas de soucis. Première remarque. Deuxième remarque, effectivement, vos prêtres, il y a un document qui est sorti pour eux, ce n'est pas un rituel, c'est un livre de prière pour pratiquer des délivrances, des prières de guérison que l'on peut faire et il n'y a pas de problème. Les prêtres imposent les mains et disent, même une prière improvisée, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix, qu'il te libère de toute chose, va en paix et une bénédiction. Il n'y a pas de texte plus fort que les autres, c'est pas comme on pourrait le dire, il n'y a pas de formule de potion magique. La foi et les prières. Les prières à Saint-Michel, le chapelet, je vous l'ai dit, chapelet, confession régulière. Et après, vous ne vous inquiétez pas. Même si les casseroles bougent dans la maison, hein, même si vous sentez des odeurs, vous ne bronchez pas. Oui, je vous vois arriver, vous. Même si votre voisin fait de la magie, de la sorcellerie sur vous, vous avancez.
Bonsoir, mon père. Je voulais vous remercier pour cette étude. Je voulais vous poser une question d'ordre théologique. Vous avez dit que Jésus avait été tenté autant que nous. Je voulais vous demander, est-ce que Jésus, de par sa nature... même incarné, qui était sans rides et sans tâches, avait la capacité d'être réellement tenté, de chuter.
Le lieu où Jésus a été tenté, il nous est très bien signalé dans les Écritures. D'abord, est-ce que Jésus pouvait succomber à la tentation ? C'est ça que vous voulez me demander ? Alors, il a été tenté, vous avez vu à Gethsémani, il a dit, si c'est possible, Père, que cette heure s'éloigne de moi. Donc il a vu le poids du salut et il a souffert aussi de... Il avait vu des crucifiés, hein, Jésus. À l'époque romaine, il y avait des tas de gens crucifiés, donc il avait vu de son vivant des gens en croix. Donc vrai Dieu et vrai homme. Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, la volonté du Père, vrai Dieu, s'éloigne de moi, vrai homme, la souffrance. Mais il n'a jamais succombé à la tentation, non ? Et vous pourriez poser la même question à l'égard de la Sainte Vierge aussi. Je ne sais pas pourquoi vous la posez seulement à l'égard de Jésus. Il y en a une deuxième qui concernait la Vierge Marie. Elle a eu un vrai vie spirituelle et ma grâce te suffit. Donc ça veut dire que si on ne succombe pas à la tentation, c'est qu'on vit pleinement de la grâce de Dieu. Donc on est en véritable communion. Donc vous pouvez admirer que Marie et Jésus ont été dans une telle communion, la mère et le fils, la mère et l'Église maintenant, qu'il y aura, je peux vous dire, non, Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Et je ne peux pas faire l'histoire non plus, vous direz, il aurait pu succomber, c'est une question piège. Merci, monsieur.
On va s'arrêter là, vu l'heure, hein, mais n'hésitez pas après à interroger le père.
Le dernier métro est à minuit, je crois.
On va passer donc à ce petit temps de salut du Saint-Sacrement. Juste pour ceux qui le souhaitent, je lis, hein, et des fois pendant les vacances, il y a des ouvrages qui sont plus faciles à lire que d'autres. Je voudrais souligner l'importance de ce qu'a dit le père Jean-Pascal Duloisy sur notre vie spirituelle, une vraie vie spirituelle. Les paroissiens d'ici m'entendent répéter ça souvent, c'est pas parce que j'ai une pratique que j'ai une vraie vie spirituelle. Je peux être là tous les dimanches, je peux aligner les chapelets, je peux sans avoir une vraie vie spirituelle, c'est-à-dire un cœur à cœur, une relation personnelle avec Dieu. Et pour déceler vraiment l'action de Satan et en prendre la mesure, ben, il faut avoir une vraie vie spirituelle. Alors on va souligner ça à des, je dirais, à des échelons supérieurs, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment rencontré Satan de manière très forte sur leur route, ce sont les saints. Les saints. Alors cet été, j'ai lu ce très bon petit livre, Le diable préfère les saints. Voilà. Hein. Je vous le recommande à l'occasion, hein, vous le trouverez facilement. Il se lit très facilement. C'est un petit peu les récits, les témoignages des saints, des saintes, des grandes figures qu'on connaît bien et qui ont vraiment rencontré sur leur route le malin, quoi. Hein. Alors, dans des proportions tout à fait exceptionnelles. Donc, je ne peux que vous le recommander. Le diable préfère les saints. Voilà.
Pour l'exposition du Saint-Sacrement, nous prendrons joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons, Fils de Marie, l'épouse sans tache. Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. Joyeuse lumière,
nous nous préparons à ce grand mystère de la nativité du Seigneur dans la nuit de Noël. Ce jour où le Verbe s'est fait chair, où il a habité parmi nous. Ce jour où la lumière est venue dans le monde et tant d'hommes ne l'ont pas accueilli. L'avons-nous vraiment et pleinement accueilli? L'accueillerons-nous vraiment et pleinement à nouveau dans la nuit de Noël? Satan, lui, n'est que ténèbres. Il ne nous veut que du mal. Il nous tente. Mais le Verbe est lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres, dissipe les ténèbres. Le Verbe s'est fait chair. Il est réellement présent. Devant nous, en cette hostie. nous l'adorons. Nous lui redisons notre amour. Nous implorons sa force, sa miséricorde, parce que nous sommes fragiles, pécheurs. Nous avons besoin de prier et Jésus nous a enseigné à prier. Il nous a fait demander à notre Père des cieux de ne pas entrer en tentation. Nous allons donc reprendre cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Tantum ergo sacramento, vene venus genui, et amico documentu, no voce dati tui, reste vive supplementu,
Panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum in se abentem. Prions. Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang. Que nous puissions sans cesse recueillir en nous les fruits de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son divin cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Vous êtes pleine de grâce, Mère de Jésus-Christ. Vous êtes pleine de grâce, Mère de Jésus-Christ. Vous attendiez la promesse et le salut de Dieu.
Vous attendiez la promesse et le salut de Dieu.
Vous avez cru au Dieu vivant, vraie fille d'Abraham. Vous êtes pleine de grâce, Mère de Jésus-Christ.
Merci pour votre présence ce soir, un bon retour chez vous, une bonne fin de soirée, une bonne nuit et un très très grand merci au Père Jean-Pascal Duloisy, bien sûr. Grand merci Père pour votre présence.